Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
François Morel, auteur, chanteur et acteur, comique, parfois dramatique, au cinéma, au théâtre, à la télévision. Qui lui a inspiré son personnage dans Les Deschiens ? Eh bien, c'est son oncle Marcel, à la campagne, quand il était jeune. Et grâce à qui a-t-il déjà donné 250 concerts ? Grâce à Juliette et Jean-Michel Ribes. Son actualité ? Un album de chansons d'un marin oublié dont il a retrouvé un texte. Ses souvenirs, ainsi que beaucoup d'autres, tout de suite, dans Les Clés d'une vie, sur Sud Radio. Bonjour François Morel.
Bonjour Jacques.
Alors, l'actualité pour vous, c'est étonnant. C'est-à-dire, Stakhanov est vraiment quelqu'un de... est un petit joueur à côté de vous.
Il y a c'est une feignasse.
Oui, exactement. Donc, on va en parler tout à l'heure, mais on va revenir sur votre parcours. C'est le principe des Clés d'une vie, avec des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 20 septembre 1984. Écoutez ceci, ça va vous rappeler des souvenirs.
À l'école, quand j'étais gamin, mon nom sonnait pas bien français. J'étais la risée des copains.
Car Napoléon de Serge Lama à Marigny, vous êtes dedans. C'est assez étonnant, je ne le savais pas.
Beaucoup alors, j'étais pas à Marigny. Moi, j'ai fait la tournée ensuite. À Marigny, c'était un garçon qui s'appelait Patrice Dozier.
Oui. Vous avez fait la tournée en comique troupier, je crois.
Oui, c'est ça. Je faisais un peu ce qu'on appelle le trial, c'est-à-dire le comique à côté du chanteur, ce que faisait Maurice Baquet ou Bourvil dans les opérettes.
Et ça, c'est grâce à Jacques Rony, avec qui vous aviez déjà travaillé, je crois.
J'avais joué dans Les Dégourdis de la 11e de Moisy-Éon et Daveillan, un vaudeville militaire.
Avec Dary Cole.
Dary Cole et Robert Hirsch, vous vous rendez compte ?
C'est fou, hein ? Mais Lama, c'était une aventure incroyable. Au départ, personne n'en voulait. Il avait une ressemblance avec Napoléon. Il a écrit ce spectacle contre la vie de tous. Résultat, 537 représentations à Paris et 3 ans de tournée.
Et moi, j'avais dû faire 99 représentations avec lui.
C'est déjà pas mal.
Oui, et alors j'avais entendu dire qu'il se prenait pour Napoléon et tout ça, ce qui n'était pas du tout le cas. Il avait beaucoup d'humour et beaucoup de distance par rapport à ça.
Alors, il y a eu aussi, avant, une expérience malheureuse, je crois, au caveau de la République, le temple des chansonniers.
C'était pas vraiment une expérience malheureuse, parce que ça m'avait permis de connaître des gens qui étaient charmants, notamment, je me souviens de André Rochelle.
Edmond Meunier, le doyen des chansonniers.
Edmond Meunier, qui était très sympathique, qui avait fait une chanson sur le Beaujolais.
Il a travaillé jusqu'à 90 ans, je crois, au caveau de la République, et le caveau est mort juste après lui.
Et il y avait aussi cet auteur de chansons, vous allez me la rappeler, qui tenait le piano au caveau de la République.
Oui, Gaby Verlor.
Gaby Verlor, voilà.
Qui a écrit Le bal perdu.
Absolument. Et aussi Déshabillez-moi pour Gréco.
Exactement. Ouais. Alors, tout ça, c'est loin de votre région natale, la Normandie. Vous êtes né dans une famille où l'on travaille la SNCF de père en fils, je dirais, François Morel.
Ma grand-mère était garde-barrière.
Oui. Oui. Comme le père de Jacqueline Maillan, d'ailleurs.
Ah,
et puis, vous avez grandi à Saint-Georges-les-Groseilliers. Et Groseilliers, je crois que ça vient de la pierre, du gravier, parce que c'était un terrain caillouteux.
Alors, c'est Saint-Georges-des-Groseilliers.
C'est ça, oui.
Il n'y a pas de « i » après les deux « l ».
Ah, d'accord.
Voilà.
Mais ça vient quand même de cailloux et de pierre et de gravier. C'est quoi ? C'est en Normandie, François Morel ?
C'est en Normandie, c'est 54 kilomètres en dessous de Caen. C'est l'Orne, c'est juste à côté de Flers. C'est pas loin de la Suisse normande. C'est à une quarantaine de kilomètres d'Argentan, Alençon et un peu plus loin, etc.
Donc en pleine campagne, aucun rapport avec votre métier ?
Oui, je connaissais peu de gens qui du musical, oui, en effet. Oui.
Et en plus, ça ne vous tentait pas du tout la campagne, vous n'étiez pas agriculteur dans l'âme.
Pas vraiment. Non, non, moi je rêvais devant Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, devant les émissions du samedi soir.
Et vous observiez les voisins, je crois qu'il y avait des voisins qui criaient très fort, des fermiers.
Et ça, c'était plutôt que moi, j'allais chez ma grand-mère à Saint-Baumère-les-Forges et à Chancecray. Il y avait la famille Mercier mais c'était normal. C'est-à-dire, ils vivaient dans les champs, ils parlaient très fort et avec un accent que j'ai beaucoup utilisé par la suite pendant quelques années.
Oui, car ça vous a beaucoup inspiré. Je crois aussi qu'il y avait un oncle Marcel, François Morel, qui avait une fromagerie.
Pas vraiment. Il travaillait à la fromagerie Vallée. qui était à Saint-Georges-des-Groseilliers. Et le jeu avec mon frère, c'était à chaque fois quand il déjeunait, parfois le dimanche pour la communion, c'était lui faire dire qu'il sortait 40 000 fromages, et à chaque fois il disait qu'il y en avait beaucoup plus qui sortaient par jour, donc c'était notre grand jeu, lui faire dire le mot 40 000 fromages.
Et des jeux, vous en aviez aussi. Vous en aviez aussi, je crois, des jeux avec un certain Bruno, qui n'était pas Bruno Locher, car vous faisiez beaucoup de farces à l'école, François Morel.
Alors j'ai oublié ça.
Si, des farces, des canulars. Vous aviez un copain d'enfance qui était à côté de vous et qui disait toujours on se fait des calembours ensemble en permanence.
Ah ben c'est possible. Alors j'avoue que j'ai un trou. C'est parce que je suis très âgé et je ne me souviens plus.
Alors, ça, c'était le point de départ. Ensuite, licence de lettres, vous partez à l'université de Caen. Rien à voir avec la campagne.
Maîtrise de lettres.
Maîtrise de lettres. Ah. Oui, mais licence pour commencer. Licence et pourquoi pour devenir professeur?
Pour me rapprocher du théâtre. Il y avait l'Institut théâtral qui était dirigé à l'époque par Robert Abirached. Et donc, c'était une approche plutôt livresque et intellectuelle du théâtre. C'est pour ça qu'au bout des 4 années, je me suis dit, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie d'être sur un plateau et de m'amuser vraiment avec les textes. D'autant que j'ai eu l'impression après de comprendre les textes, surtout quand je les disais. Donc, je disais souvent, je comprends les textes avec les pieds. C'est-à-dire que quand je suis debout et que je dis un texte, je comprends souvent mieux que quand j'étudie seulement le texte, parce que j'ai une fâcheuse tendance à rêvasser quand je lis.
Oui, enfin, vous n'avez pas rêvassé à l'examen que vous avez passé avec quelqu'un qui vous donnait la réplique et qui est devenue votre femme, je crois, François Morel.
Oui, oui, oui. Moi, je n'avais pas du tout la culture des scènes qu'on apprend et qu'on travaille dans les cours privés, alors que Donc, moi, j'avais travaillé tout seul et j'avais demandé à Christine, ma femme, de me donner la réplique. Et on avait joué notamment un extrait de la leçon d'Ionesco. Et à un moment donné où j'avais quitté le plateau et où ma femme s'était retrouvée seule sur scène, elle avait été extrêmement mal à l'aise. Et après, on nous avait dit, c'est très intéressant, le fait que l'élève ait le texte à la main et lise, comme ça, c'est une très bonne idée de mise en scène. Alors, c'était pas du tout une idée de mise en scène, c'était juste une méconnaissance de la façon dont on travaillait les scènes du répertoire.
Vous avez quand même été reçu à cet examen, c'était l'école de la rue Blanche, et il y avait une autre Christine d'ailleurs dans cette classe, c'était Christine Scott-Thomas, je crois.
Oui, il y avait Christine Scott-Thomas, oui, il y avait beaucoup de gens qui sont restés dans le théâtre, notamment Dominique Bluzet aussi, qui est devenu directeur des théâtres à Marseille et Aix-en-Provence. Il y a Muriel Mayette, avec qui on a répété pendant des mois un spectacle qui n'a jamais vu le jour. J'ai des bons souvenirs de très bons éléments.
Et Christine Scott-Thomas, d'ailleurs, elle est arrivée en France à 19 ans. Elle a toujours dit qu'elle se sentait plus française que britannique. Et puis, elle a quand même tourné 4 mariages et un enterrement qui a été un succès mondial.
Absolument, oui, oui. Et même après 4 mariages et un enterrement, je lui avais proposé de jouer dans un court-métrage que j'avais co-réalisé avec Marc-Henri Dufresne. Et elle avait accepté très gentiment. Donc, j'ai pu jouer avec une star internationale.
Mes compliments. Alors, à cette époque, vous cultivez un personnage comique, et c'est un personnage aussi vachard et poétique à la fois. C'est une forme d'humour que vous défendez absolument, François Morel.
C'est-à-dire que je crois que je ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire que c'est sûrement proche de moi, de ma façon de faire rire mes camarades à l'école, où c'était la même finalement que quand j'ai commencé à faire des spectacles. Et sûrement le même personnage aussi qu'on retrouve un peu dans Les Deschiens, quand j'ai fait Les Deschiens avec Jérôme Deschamps et toute la bande.
Dont on va reparler, mais c'est aussi proche d'un personnage dont on écoute une chanson.
La tec-tec-tec-tec-tique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer.
Car il y a des liens entre vous et Bourvil, François Morel.
La Normandie ?
Oui.
Il y a une espèce de naïveté apparente, sans doute ?
Oui.
Je crois que c'était un acteur de proximité. Et j'aime bien cette notion-là. Pour mes parents, par exemple, mes parents n'étaient pas des cinéphiles, mais à chaque fois qu'il y avait un nouveau film de Bourvil, on allait forcément le voir au cinéma Le Viking ou Le Palace de Flair de Lorne. On avait l'impression d'être vraiment proche de cet homme-là, qui avait gardé une espèce de simplicité, de gentillesse naturelle.
Et il y a un autre point commun avec lui, que vous avez, François Morel. À l'école, il faisait rire ses petits camarades en imitant les paysans. Et c'est comme ça que ses premiers sketchs sont nés à l'école, lui aussi, à l'école communale.
Ouais. Alors moi, je dirais pas que mes premiers sketchs sont nés comme ça, mais finalement, en tout cas, même se moquer des professeurs et tout ça, c'est une façon d'exister auprès des autres et de se faire aimer, sûrement.
Quand je parlais tout à l'heure de notre camarade de classe, Bruno, c'est ça qu'il avait remarqué chez vous.
Ouais. Mais alors, j'ai oublié quel Bruno est-ce que ça pouvait être. Parce que tout d'un coup, j'ai réfléchi. Il y a Bruno Champion, mais que j'ai connu à la fac. Et il n'y a pas de Bruno que je vois.
En tout cas, son témoignage existe sur Internet. Bon, on va passer à autre chose, à une autre date importante, le 18 juillet 1995. On en parle tout de suite sur Sud Radio avec François Morel.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité François Morel. Alors, 18 juillet 1995, ça vous dit quelque chose ?
À mon avis, je devais être à Avignon, dans la cour d'honneur du Palais des Papes, avec mes camarades, et on jouait les pieds dans l'eau.
Voilà, exactement, une comédie qui est un hommage aux nouveaux prolétaires urbains à l'époque, c'est comme ça qu'on les appelle. Et je crois que cette idée est née dans l'esprit de Jérôme Deschamps en voyant des jardins ouvriers en Allemagne.
Ah oui, ouais, ouais. C'est un spectacle de Jérôme Deschamps, Macha Makeyev, qu'on avait dû créer, je pense, un ou deux ans avant, au théâtre de
Nîmes.
De Nîmes, oui. Ah oui, vous avez raison. Et je crois qu'on l'avait joué ensuite à la Grande Halle de la Villette.
Voilà.
Oui, c'est une bande formidable de comédiens.
Alors, au Théâtre de la Villette, je crois qu'il y a eu une nuit totalement folle qui mériterait d'être dans le livre des records. Vous avez joué tous les spectacles des chiens en une soirée, je crois, François Morel.
C'est ça. Alors, certains comédiens n'étaient pas dans tous les spectacles, mais moi, j'étais dans tous les spectacles. Donc, je crois qu'on avait dû commencer par Lapin Chasseur, pendant lequel on jouait deux fois la même chose, et où le public changeait de place. Ensuite, j'avais dû jouer les pieds dans l'eau, et on avait terminé par les frères Zénith, et on avait pris un petit déjeuner vers 5h du matin. Oui, c'est un très beau souvenir.
Alors, il se trouve que Avignon, la cour du Palais des Papes, bon, c'est mythique, et Jean Villard, au départ, ne voulait pas jouer dans cette cour. C'est-à-dire que lorsqu'on a proposé de faire le premier festival en 1945, il y avait une exposition d'art moderne d'un monsieur qui s'appelait Christian Zervos avec René Char, et c'est deux ans plus tard qu'il a accepté de venir jouer un spectacle et que le festival d'Avignon est né ensuite.
Ouais.
Ça n'a pas été immédiat. Pardon ?
Je ne suis pas sûr qu'il y avait une capacité pour recevoir des spectateurs aussi forte dans les années 40 qu'à ce moment-là.
Ben non, en plus, ça durait 8 jours et il y avait très peu de spectacles.
Ouais, ouais.
Mais ce qui est clair aussi, c'est que ce qui a été beaucoup plus rapide, c'est votre rencontre avec Jérôme Deschamps, car je crois que vous lui avez écrit une lettre après avoir écrit un spectacle, et une lettre dans laquelle vous racontiez absolument n'importe quoi.
Je ne sais plus. Ah non, 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 la lettre était assez sérieuse. Je pense qu'elle devait être un peu naïve, mais elle était très sérieuse. En fait, moi, je sentais que j'avais plutôt une nature comique, et en même temps, j'avais fait des études de lettres, donc j'avais envie de jouer dans des spectacles un peu exigeants à l'époque, et je me sentais loin du théâtre de boulevard qui depuis peut me faire rire, mais à l'époque, Jérôme Deschamps correspondait exactement à ce que je voulais faire, c'est-à-dire des spectacles qui faisaient aussi un peu polémique, c'est-à-dire que la première fois que j'ai vu un spectacle de Jérôme Deschamps, ça énervait toute une partie du public qui partait fâché, et puis il y avait toute une partie dont je faisais partie, dont j'étais moi, qui était enthousiasmée par cet univers-là, à la fois un peu folle-dingue et très poétique. Donc je lui avais écrit une lettre pour lui dire je lui disais que mes personnages parlaient trop et que j'avais envie de leur faire apprendre le silence. Et que justement, dans les spectacles de Jérôme Deschamps, on exprimait beaucoup de choses par le silence. Mais je pense que les spectacles de Jérôme Deschamps et les Deschiens notamment n'ont jamais autant parlé que quand j'ai participé à ces spectacles.
Oui. Alors dans cette lettre, mais ça c'est une information que j'ai recueillie, il paraît que vous parliez de votre père qui était malade, vous aviez besoin de travailler, enfin vous aviez un peu inventé.
C'est quand je l'ai vraiment rencontré, quand je l'ai vu, j'ai participé à un stage. Je crois que les premiers jours j'étais assez intimidé, puis à un moment donné on m'a demandé d'aller sur le plateau et de raconter quelque chose, et j'avais raconté que mes parents étaient en instance de divorce, que ma maman était plutôt artiste et qu'elle avait envie que je connaisse des metteurs en scène un peu connus, et mon père était fromager, la fromagerie m'a poursuivi, et aimerait mieux que je reprenne la fromagerie familiale. Donc je faisais le gap velléitaire qui était partagé entre une carrière de fromager ou une carrière d'artiste, et j'avais développé ça assez longuement, et je me souviens surtout de la tête de mes camarades qui assistaient à ça et qui n'en revenaient pas d'avoir un garçon aussi velléitaire, aussi peu passionné, et disons, mais enfin, pourquoi on laisse des garçons comme ça prendre la parole dans un cours de théâtre alors qu'il y a tellement de gens enthousiastes et qui ont envie de faire une carrière dans le théâtre. Et après, j'avais dit à Jérôme Deschamps, tout ce que j'ai raconté, c'est de l'invention pure. Et il m'avait dit, même si c'était faux, c'était vrai. Et donc, finalement, c'est une définition du théâtre.
Alors, là-dessus, il y a eu les déchets à la télévision, dans Nulle part ailleurs. Comment s'est arrivée cette aventure, François Morel ?
Justement, lors de la grande exposition à la grande halle de la Villette, pendant laquelle on a joué tous les spectacles, il y avait une exposition qui avait été faite par Macha Makeyev, et il y avait notamment beaucoup de petits récepteurs de téléviseurs dans lesquels passaient des images qu'on avait filmées pour cette exposition. Donc c'était presque les premiers des chiens, avec des choses qui duraient 30 secondes et des choses beaucoup plus longues. Et à cette époque-là, tous les gens de Canal+ étaient venus voir l'exposition, notamment Philippe Gildas, Antoine Decaune, et avaient été enthousiasmés par ça, et nous ont proposé à Jérôme Deschamps et à Macha Makeyev d'avoir une petite pastille tous les jours dans Nulle part ailleurs. Donc on s'est lancé et on ne s'est pas du tout rendu compte aussi de l'effet que ça avait, parce que je crois qu'au moment où c'est sorti, on était en tournée en Amérique du Sud. Donc on ne s'est pas si rendu compte que ça de la notoriété de ce que ça occasionnait chez les spectateurs.
Alors, vous avec l'accent normand, Bruno Locher avec l'accent de la Sarthe, Yolande ouais. Moreau avec l'accent belge, c'était un trio infernal. Vous avez dû beaucoup vous amuser.
Oui, et plus que ça aussi, parce qu'il y avait Olivier Saladin qui avait plutôt le parler de la Haute-Normandie, il y avait Philippe Duquesne qui venait du Nord, il y avait François Toulmarkin, Olivier Broche, Lorella Cravotta qui venait de Nîmes. Et c'était marrant parce que quel que soit l'endroit en France où on jouait, les gens disaient « vous êtes de chez nous, vous ». Donc les gens avaient vraiment l'impression qu'on était très proche d'eux, quoi.
Et aujourd'hui encore, des tas de gens disent 36-15 qui n'en veut, François Morel.
Ben, il paraît. Ouais. Je l'entends même de temps en temps à la radio. Ouais. Ouais.
C'est né comment ça ? C'est un gag qui est né par hasard parce que vous improvisiez beaucoup.
Oui, c'était né dans l'improvisation. On nous lançait sur une idée, puis on se lançait. Donc je sais pas. Donc on tordait un peu le langage. C'était des gens qui avaient pas une très bonne maîtrise du langage et donc qui faisaient des fautes, etc. Donc et puis quand ça nous amusait, on le répétait pour en faire des gimmicks.
Voilà. C'était 10 heures par jour, 5 jours sur 7, c'était épuisant.
Non, mais c'était pas aussi dur que ça, parce que il se trouve qu'on faisait donc 5 pastilles par semaine, et que quand on faisait une journée de tournage, on en faisait plus que 5, on en faisait presque de quoi remplir 2 semaines. Donc en fait, nos journées étaient plutôt occupées par les tournées, par les spectacles, parce qu'on n'a jamais arrêté de jouer au théâtre quand on a fait de la télévision.
Et puis, il y a eu avant Les Deschiens une apparition dans Palace où vous étiez le groom qui a marqué vos débuts. Et ça, vous le devez. Et vous devez beaucoup à Jean-Michel Ribes, François Morel.
Ah oui, il a été très, très agréable, Jean-Michel, dès le début, parce qu'il m'a proposé tout de suite d'écrire pour mon personnage. Je lui avais dit au mois d'août, il y a 15 jours où je ne peux pas être là parce que je fais une création de spectacle. Il m'a dit, ah bon, tu écris ? Je lui ai dit, oui, je vais jouer à Semur en Auxois, on dit, je crois.
Oui, je crois.
Dans le petit théâtre, j'ai été mis en scène par Marcel Bozonnet. Et donc, il y avait une période où je ne pouvais pas être avec lui à Boulogne, pour tourner Palace, et il m'a dit, mais si tu veux, si tu as des idées pour ton personnage, apporte-les-moi, et si ça me plaît, je les tournerai. Donc la semaine suivante, j'étais venu avec plein de feuilles et plein d'idées de sketch, il avait tout lu, et il dit, oh, ça c'est drôle, ça c'est pas terrible, et puis voilà, ce qui fait que je fais partie de cet aréopage d'auteurs de Palace, avec des gens formidables quand même, comme Willem, Topor, le grand Topor, Volinsky et d'autres, et François Rollin notamment.
Ça a été votre première aventure, il y en a eu beaucoup d'autres. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 20 novembre 2006. À tout de suite sur Sud Radio avec François Morel.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité François Morel. 20 novembre 2006, si ça vous dit rien, c'est la sortie d'un album où il y a cette chanson.
Sera-t-il sous, sera-t-il pas, comment qui va rentrer, papa? Comment qui va rentrer, papa?
Comment qui va? Premier album, collection particulière, avec une chanson intime, et c'est rare que vous dévoiliez, qui s'appelait Papa, je crois, François Morel, ça a marqué beaucoup de gens.
Ma maman détestait que je la chante.
Ah bon?
Et quand j'avais fait un spectacle à Flers de l'Orne, un spectacle de chansons, j'avais dit à maman, tu peux venir, je ne vais pas chanter papa. Et ça l'a fait rassurer.
Alors, votre père, il avait aussi une passion pour la chanson française, et vous avez peut-être hérité de cette passion. Lui, il chantait Jean-Roger Cosimo.
Ils ne sont pas encore usés par le métro des matins blêmes.
Alors franchement, aujourd'hui, il faut être clair, qui connaît, à part vous, moi et quelques autres, Jean-Roger Cosimo, qui a été l'auteur favori de Léo Ferré, qu'il a rencontré au Lapin Agile.
Qui a écrit Comme à Ostende, qui est l'une des plus belles chansons du monde.
Oui, mais ça a forgé votre culture, j'ai l'impression, François Morel, votre culture de chanson française.
J'adorais ça, j'adore une autre chanson qui s'appelait Mon camarade, par exemple, de Jean-Roger Cosimo. Et oui, mon père avait un goût très fort et très sûr, je trouve, pour la chanson. Il était fou aussi de la chanson « Je suis venu te dire que je m'en vais » de Serge Gainsbourg. Et je trouvais qu'il avait, oui, le bon goût en chanson. Il était fou aussi d'une chanson que j'ai revue il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Si rose ».
Les copains m'appellent Si Rose.
Les copains s'appellent, et c'est magnifiquement écrit, et je revoyais Annie Cordy chanter cette chanson-là dans un palmarès des chansons, je crois, et elle était une comédienne absolument épatante.
Alors, c'est marrant
parce qu'à l'époque, j'aurais jamais fait un lien entre Jean-Roger Cosimo, Annie Cordy, Serge Gainsbourg, et maintenant, dans ma tête, tout ça se mélange dans le même amour de la chanson, parce que je me dis, par exemple, l'auteur de la chanson Si Rose, c'était le même auteur aussi que celui qui écrivait pour c'était le même auteur que pour Jean Ferrat, par exemple. Et mais je trouve qu'il y a pas de il y a plein de grandes chansons dans des styles extrêmement différents, et je trouve que Annie Cordy a chanté des chansons formidables et très très bien écrites.
Exactement, vous êtes un fou de chansons françaises traditionnelles, et c'est peut-être pour ça que vous avez enregistré cet album, collection particulière au départ, François Morel.
Oui, on s'est amusé avec Reinhard Wagner. En fait, Reinhard a écrit surtout beaucoup de musique de films, et il était très ami avec Roland Topor, et il avait écrit des chansons avec Roland Topor, et il m'avait proposé de les chanter. Et à l'époque, je lui avais dit, je suis désolé, mais je ne suis pas chanteur, donc je ne vais pas être la bonne personne pour défendre ces chansons-là. Mais je lui avais dit, j'aime beaucoup ton sens mélodique, et j'aimerais bien essayer d'écrire des chansons. Et on a commencé à écrire juste pour s'amuser des chansons, et puis on en a eu un certain nombre. Jean-Michel Ribes en a entendu parler et m'a appelé un jour pour me proposer de les chanter au Théâtre du Rond-Point, dans la petite salle, salle Tardieu. Et je lui avais dit, oui, je veux bien si tu me mets en scène, parce que je m'étais dit, si le chanteur que je suis est trop épouvantable, le comédien essaiera de sauver la soirée. Et finalement, j'ai pris vraiment goût à écrire des chansons et à les défendre sur scène.
Et il y a quelqu'un qui vous a aussi aidé, c'est une chanteuse qu'on a reçue d'ailleurs dans une vie, qui est Juliette.
Oui, Juliette a mis en scène les deux spectacles suivants. Et puis, on a eu souvent des rencontres. Elle m'a proposé de faire un duo avec elle sur un de ses disques. Elle m'a demandé d'écrire certaines de ses chansons. Enfin, oui, elle a dû chanter deux chansons à moi. Et puis moi, j'adorais travailler avec elle. Elle est très pointue, très intelligente. Et surtout, c'est très, très drôle et très gai de travailler avec elle.
Alors la chanson, pour vous, ça a commencé quand vous étiez enfant, ça a commencé avec cette chanson, François Morel.
Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle.
Car je crois qu'à la communion de votre sœur ou de votre cousine, vous avez chanté cette chanson, François Morel.
Absolument, je me souviens encore de l'émotion que j'ai eue. J'étais pas grand, j'étais monté sur la table et j'avais chanté cette chanson-là. J'avais un trac fou avant de monter sur la table. J'ai eu pris un plaisir fou quand j'ai chanté ces paroles. Et après, j'étais frustré que ça ait été si court. Donc, je me suis dit, il faut que je multiplie ces moments-là dans ma vie où je suis sur scène, où j'ai préparé quelque chose et où à la fin, on va essayer de m'applaudir.
Voilà. Et on vous a applaudi. Et vous avez pris des cours de chant aussi avec une dame octogénaire.
Nonagénaire même maintenant, ouais. Puisque Raymonde Viré a 96 ans et que je l'ai vu encore la semaine dernière pour prendre un cours. Oui. C'était très longtemps.
Oui, mais ça vous a beaucoup apporté, les cours de chant.
On m'a dit que je chantais mieux que sur le premier disque là récemment, donc ça m'a fait plaisir.
Alors, vous avez aussi écrit des chansons pour d'autres. Alors, on n'est pas dans la musique urbaine à la mode aujourd'hui, puisque vous avez écrit pour Anne Baquet, pour Francesca Solville, même pour Juliette Gréco.
Oui, une chanson pour Gréco. Elle avait fait un album thématique sur les ponts. Et avec Antoine Salaire, on a écrit une chanson qui s'appelle Le Petit Pont, et qu'elle a chanté magnifiquement. Oui.
C'est rare aujourd'hui les paroliers qui écrivent pour de tels artistes qui ne sont pas forcément en tête du top 50.
Ouais, mais je crois que c'est ma culture et c'est mon goût. J'adore j'ai l'impression d'avoir appris à lire et à écrire avec Georges Brassens, avec Georges Moustaki, avec Barbara, avec Beco, avec Aznavour. Et tous ces gens-là, oui, m'accompagnent quasiment tous les jours.
Et d'ailleurs, vous avez mis en scène un spectacle sur Brassens qui s'appelle « Georges et moi » et qui a été chanté par Alexis Hachka.
Les gens de bon conseil ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue, j'avais des comptes à rendre et que sous peine de choix, dans un oubli complet...
Ça aussi, c'est une surprise. Qu'est-ce que c'est que ce spectacle ? Parce que des spectacles sur Brassens, il y en a eu pas mal. Et celui-là a bien marché, il était très original.
Oui, moi je dirais pas tout à fait que j'ai fait de la mise en scène. Je l'ai accompagné, Alexis, et je lui ai dit surtout d'avoir confiance parce qu'il avait d'abord, c'est un beau garçon qui chante bien, donc il avait tout pour faire un spectacle formidable. Et il avait aussi beaucoup de liberté, c'est-à-dire que parfois il a changé quelques mots. Il s'est même permis de parler au milieu de chansons et d'expliquer des choses, etc. Et il en faisait même des chansons sketch. Et c'était très drôle, très intelligent. Et c'était un bel hommage qui n'était pas compassé vis-à-vis de Brassens qui l'avait nourri et qui m'avait nourri moi-même.
Oui, ce que vous aimez dans Brassens, je crois, François Morel, c'est l'humanisme de l'homme et en même temps le côté, sa façon de chanter des chansons lestes très pudiquement.
J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les sourires de Brassens quand il est à Bobino. C'est absolument magnifique parce qu'on a l'impression que dans le secret de l'intimité de l'écriture des paroles, il osait dire des choses et aussi nourri par les grands auteurs l'Est. Et puis quand il était sur scène, il avait un côté extrêmement poli, courtois, qui faisait qu'il était un petit peu gêné. Je me demande s'il n'y avait pas un jeu aussi de sa part à jouer la gêne devant le public de Bobino. Moi, je trouvais que c'était une bête de scène. J'avais vu à l'époque, enfin plus tard, j'ai vu Yves Montand. Moi, j'avais adoré le spectacle d'Yves Montand en 81 quand il avait fait un retour à l'Olympia. Et j'avais vu quelques années avant Georges Brassens. Alors évidemment, Georges Brassens, c'était beaucoup plus minimaliste, mais sa façon de lever un sourcil, de tourner légèrement la tête, c'était un jeu de scène qui était minimaliste, précis et très juste.
Oui, donc... mais en même temps, il n'aimait pas vraiment la scène, il transpirait à de grosses gouttes parce qu'il avait peur à chaque fois. Et il transpirait, c'était le souvenir des examens de son enfance qu'il avait traumatisé. Et devant le public, il avait l'impression chaque soir de passer un examen.
Mais est-ce qu'il s'était pas un peu calmé avec... Moi, je l'ai vu la dernière fois, genre en 1977.
Oui,
il me semblait qu'il était un peu plus à l'aise que 10 ans, 15 ans avant.
Ça, c'est sûr, mais enfin, c'était quand même pas...
Vous l'aviez vu beaucoup, vous ?
Bien sûr. Ouais. J'ai même un jour déjeuné chez lui avec ses copains. Alors là, c'était tout à fait autre chose. Il était archi décontracté.
Oui, et il était capable de dire des méchancetés ?
Non.
Non ?
Non. Non,
non, c'est pas le souvenir que vous en avez ?
Pas du tout. C'était, au contraire, c'était quelqu'un qui, quand il aimait les gens, disait beaucoup de choses très gentilles. Et à côté de ça, quand il n'aimait pas, il n'en parlait pas.
Oui, la classe.
Alors, il y a eu la chanson et puis il y a le comédien, parce que vous avez quand même joué le bourgeois gentilhomme, et ça, ça a été un rêve de jeunesse qui est devenu réalité, François Morel.
Oui, oui, oui. C'était vraiment, je crois que j'avais vu Louis Seignier dans le film qui passait dans les écoles dans les années 60, un spectacle de la Comédie française. Je me demande si c'est pas Jean Meyer qui l'avait mis en scène, et je m'étais rendu compte que on pouvait faire rire avec Molière comme Fernand Reynaud me faisait rire dans ses sketchs à la télévision, et j'avais adoré ce personnage là j'avais adoré l'acteur Louis Seignier, et je m'étais dit dans un coin de ma tête, peut-être qu'un jour j'aimerais quand même beaucoup jouer Monsieur Jourdain. J'ai eu cette proposition-là. La proposition est venue d'abord à l'acteur, et après on a cherché le metteur en scène, et c'est mon ami Valérie Lévy qui a eu l'idée de dire, mais pourquoi tu demanderais pas à Catherine Hiegel, qui venait de quitter la Comédie française. Et donc, on a fait ce spectacle-là, dont je garde un souvenir merveilleux, surtout parce que j'étais bien entouré aussi par des comédiens formidables. Je pense notamment à Alain Pralon, qui jouait le rôle du maître de philosophie et avec qui je m'étais merveilleusement entendu.
Et puis, il y a quand même un film qui a marqué beaucoup les cinéphiles, parce que vous avez eu beaucoup de chance. Vous avez tourné dans Un couple épatant avec Ornella Muti.
Oui. Oui, c'est un beau projet de Lucas Bellevaux. C'est-à-dire, c'était une trilogie, un couple épatant, cavale après la vie. Et les personnages principaux de certains films devenaient des personnages secondaires de certains autres films. Et moi, j'avais joué dans la comédie avec Ornella Muti, et le film se terminait presque par un baiser assez long.
Et alors,
comme je suis assez joueur et qu'il y avait l'équipe technique autour de moi, je faisais un signe pour dire de continuer à tourner, parce que j'avais beaucoup apprécié ce moment.
Je comprends. Alors, anti-rôle aussi, mais par la voix, vous avez été rentemplant.
Oui, j'étais spécialisé dans les animaux. Après des chiens, j'ai fait rentemplant, et j'avais fait aussi le chat du rabbin.
Voilà.
Oui. Donc j'aime bien jouer.
Travaillez comme une bête.
Voilà.
Et d'ailleurs, il faut savoir que Rentemplan a été inventé par René Goscinny. C'était une parodie de Rintintin, feuilleton qui avait marqué les jeunes années d'une génération.
Chien. Voilà. Vous voyez, au début des années 60 à la télévision le jeudi après-midi.
Voilà, avec Rusty, son maître, dans un feuilleton qui a traversé les époques.
Ouais.
Donc, ça fait beaucoup de choses, mais quand je dis que vous travaillez comme une bête, je ne suis pas loin de la vérité, parce qu'on va maintenant parler d'une date, le 16 octobre 2020. À tout de suite sur Sud Radio avec François Morel.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, François Morel. Alors, quand je dis qu'il y a des choses importantes dans votre vie, il faut les détailler. On va commencer par le 16 octobre 2020. C'est la sortie de Tous les marins sont des chanteurs, un album où il y a cette chanson.
As-tu connu la cancalaise que je croisais parfois le soir à la pointe des roches noires? Elle se prénommait Thérèse.
Alors ça, c'est une histoire invraisemblable. C'est un livre et un album. Le livre s'appelle « Tous les marins sont des chanteurs » chez Calman Lévy. L'album vient de sortir avec 14 chansons. Et c'est né d'une découverte dans des archives, François Morel.
C'est même né dans un vide-grenier de Saint-Lunaire, du côté de Saint-Malo, par là, où Gérard Mordillat loue une maison tous les ans. Et j'étais en vacances chez Gérard Mordillat. Je vais un dimanche après-midi dans un vide-grenier et je vois un fascicule sur lequel il y a cette chanson, La Cancalaise, qui est une chanson que j'avais pas entendue depuis une quarantaine d'années, depuis la disparition de mon oncle Octave, qui avait tendance à la chanter régulièrement à chaque fois qu'il y avait un repas de famille. Et je me suis dit, tiens, cette chanson-là que je connaissais et que j'ai complètement oubliée, c'était donc de ce monsieur Yves-Marie Le Guilvinec. Et il y avait d'autres chansons, ça m'a semblé actuel, très intéressant. Et donc, j'en ai parlé à la fois à Antoine Salaire, qui a lu les partitions, qui les a retravaillées, et à Gérard Mordillat, qui a fait des recherches sur la personne, sur la biographie de Yves-Marie Le Guilvinec.
Oui, car personne ne sait aujourd'hui que c'était un marin qui est mort à 30 ans. Théodore Botrel en a parlé, je crois. Il l'a évoqué un jour, Théodore Botrel, qui était le chantre du Chat Noir, qui avait écrit « J'aime Paimpol et sa falaise », alors qu'il n'y a pas de falaise à Paimpol.
Oui,
ça avait mis les pieds.
Voilà. Donc, alors, les gens qui aimaient la chanson en Bretagne disaient, le Guy de Vinec, il connaît plus la Bretagne, il connaît plus la mer que Théodore Botrel.
Mais. Qui était le Guy de Vinec?
C'était le Guy de Vinec, oui. Alors, le Guy de Vinec, c'était un marin breton qui écrivait des chansons et qui, je crois qu'il s'appelait Le Corps et il a pris ce pseudonyme Le Guy de Vinec en hommage à sa mère qui était du village du Guy de Vinec.
Et donc, c'était un marin qui partait pêcher au large et qui avait écrit des chansons qui, à l'époque, ont eu du succès.
Qui étaient un succès un peu local en Bretagne, mais c'était beaucoup chanté, surtout, c'était des chansons qu'on chantait les veilles de départ. C'était des marins qui partaient sur les bateaux pendant parfois 9 mois, qui allaient jusqu'à les Terre-Neuve, etc. Donc, c'était des chansons qui étaient faites pour être chantées à plusieurs, même peut-être avec un boc de bière à la main. C'était des chansons qui étaient faites pour être chantées, reprises à plusieurs.
Et comment vous est venue l'idée de les chanter, d'en faire un album ?
Très jour après jour, c'est-à-dire en découvrant les chansons, en me disant tiens, c'est dommage de ne pas en faire quelque chose. Et puis et aussi parce que par les recherches qu'a fait Gérard Mordillat, on s'est dit ça serait intéressant de faire une espèce de conférence chantée autour d'une œuvre absolument inconnue. Et c'est ce qu'on devait faire cette année au printemps et que j'espère on fera à la Scala en janvier si les conditions nous le permettent.
Oui, s'il n'y a pas de tempête, mais pas en mer. Alors, on est quand même dans un univers breton, loin de la Normandie.
Oh, c'est pas si loin. C'est pas si loin. Et puis, mon grand-père était breton. Et ma grand-mère était de Lambézélec.
Alors, dans cet album, il y a beaucoup d'autres chansons. On en écoute une, c'est celle qui ouvre l'album, c'est « À l'espérance ».
À l'espérance, c'est le bistrot des capitaines et des matelots, des quartiers maîtres. Des amiraux, des seconds maîtres, chefs mécanos, des aspirants.
Vous connaissez la mer, vous avez déjà navigué, François Morel ?
J'ai l'habitude de dire que je ne sers à rien sur un bateau. J'aime bien voir la mer, et j'aime bien monter sur un bateau, mais vraiment je suis assez inutile sur un bateau.
Bon, vous êtes là, c'est le principal, non ?
Voilà, je suis là.
et cette chanson « À l'espérance », c'est un univers aussi très particulier. C'est celui des marins, du port.
C'est rendre hommage à un endroit qui était important et qui était stratégique, et où aussi un endroit où tous les gens de la mer pouvaient se réunir. Je trouve qu'il y a, c'est ça l'intérêt de la chanson aussi, c'est que ça réunit tout le monde. Ça, normalement, en tout cas, une belle chanson, elle réunit à la fois les gens qui sont lettrés et ceux qui ne le sont pas, les fonctionnaires, les paysans, les ouvriers, les intellectuels. Tout le monde peut se retrouver autour d'une chanson comme tout le monde pouvait se retrouver à l'espérance.
Alors, est-ce que ces lieux comme l'espérance existent encore aujourd'hui dans les ports bretons ?
Peut-être que je ne les connais pas assez. Je pense que la vie a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'à l'époque, on partait pendant des mois et que c'est un résumé aussi, c'est un raccourci, ces chansons-là, d'expériences de vie extrêmes, puisque ce sont des gens qui partaient pendant des mois, qui se séparaient parfois. Quand ils revenaient, ils ne reconnaissaient pas leurs enfants. Parfois, il y en avait un de plus. C'était des vies quand même très différentes de celles qu'on vit aujourd'hui. Donc, peut-être que l'espérance aujourd'hui n'a pas tout à fait la même fonction.
Alors, dans cet album, comme dans le livre, vous évoquez la postologie d'Yves-Marie Le Guy de Vinec, qui est à base de vin et d'alcool.
Pas mal de rhum aussi.
Oui.
Ouais.
C'est comme ça qu'il vivait et qu'il survivait pratiquement en mer.
Ben, je pense, oui. Oui, parce que c'était des vies quand même extrêmement, extrêmement difficiles. Et puis, il n'y avait pas toutes les campagnes sanitaires d'aujourd'hui concernant l'alcool.
Et vous avez eu un conseiller particulier, un consultant, qui est Patrick Peloux.
Oui. Qui parle de la disparition de Yves-Marie Le Guy de Vinec et qui explique un peu les circonstances de sa disparition.
Et pourquoi lui ? Pourquoi Peloux ?
Pourquoi Peloux ? Parce que c'est un ami.
Uniquement.
Uniquement. Ce n'est qu'un livre de copinage.
c'est un ami, et puis le Guilvinec a disparu en mer à 30 ans, tombé d'un bateau renversé par une vague, et on dit aujourd'hui que son esprit hante encore les mers. C'est une légende.
Moi-même, je ne l'ai pas remarqué, mais des vieux Bretons le disent, oui.
Alors, parmi les interprètes de cet album, il y a Bernard Lavilliers dans un duo « Tous les marins sont des chanteurs ».
On peut entendre leurs sanglots quand ils entament à recourance. Tous les marins sont des chanteurs.
Pourquoi Bernard Lavilliers, ceci un copain ?
Ah, non, c'était pas un copain, c'était une espèce de rêve. Je me suis dit, une chanson sur les marins, sur les poètes voyageurs, ça serait formidable que Bernard Lavilliers puisse y participer. Et une fois, j'avais entendu dans une interview où il avait dit une chose proche de ça. Il avait dit quand on est sur un bateau, on est obligé de chanter. Et je me suis dit, ça serait bien de pouvoir lui proposer de chanter avec moi. Tous les marins sont des chanteurs. Et donc, non, je connaissais pas. J'ai dû le croiser il y a 20 ans dans un restaurant. Il s'en souvenait lui-même. On avait échangé après nos spectacles dans un restaurant de Montpellier. Et puis, moi, j'étais allé le voir quand j'étais jeune et que j'étais étudiant à Caen. Et quand on a enregistré, justement, on avait beaucoup de choses aussi en commun. C'est-à-dire, on a parlé notamment de Jean-Roger Cossimon pour lequel il a une passion. Donc, c'était extrêmement agréable. On avait quelques références communes.
Et puis, il faut savoir lui aussi qu'à Salvador de Bahia, à ses débuts, il a été docker pendant un an. Il traînait dans la journée dans les coupes-gorges. Après, il déchargeait les bateaux pour gagner sa vie.
Alors, c'était complètement l'univers, quoi. C'était vraiment le rêve. C'était la bonne personne pour proposer ce projet à Lavilliers.
Alors, quand je disais, François Morel, que Stakhanov est un amateur à côté de vous, c'est qu'il y a cet album, il y a ce livre, et il y a également un autre livre qui s'appelle « Au comptoir des philosophes », car vous êtes maintenant philosophe, vous avez repris les grandes citations et vous avez corrigé.
Non, alors oui, je ne suis pas philosophe. Il y a une vraie philosophe à côté qui
est… Victorine de Oliveira.
Voilà, Victorine de Oliveira, qui elle dit, qui remonte les citations que je démonte moi-même. Moi, je suis pour la partie fantaisiste.
Oui. Vous dites que les grandes citations, Descartes et le chaînon manquant entre Galilée et Cyril Hanouna.
Voilà.
C'était assez exact. Pourquoi cette idée? Comment est née cette idée, François Morel?
En fait, je participe au magazine Philosophie Magazine tous les mois. Il m'avait demandé d'écrire une chronique pendant ça fait 3 ans à peu près que je participe à Philosophie Magazine. Et au bout de 3 ans, ils m'ont fait la proposition de sortir en livre et aussi de donner un éclairage vraiment philosophique par quelqu'un qui connaissait plus la philosophique, moi. Donc c'est un livre aussi où on peut apprendre des choses, parce que grâce à Victorine, et on peut s'amuser grâce à moi, j'espère. Voilà. Et ce qui est important aussi, ce sont d'ailleurs les illustrations de Pascal Rabaté, avec qui j'ai l'habitude de travailler aussi.
Et vous travaillez aussi avec Juliette, puisque Juliette est dans votre album avec Mère en fils.
Ne t'embarque pas sur la mer. Ta mère.
Là, on est dans la tragédie. Hein.
Elle est impressionnante. Hein.
Étonnante, oui. C'est une artiste. Alors, cet album, cette chanson s'appelle De mère en fils, mais il y a aussi De père en fils, puisqu'en même temps, le stakhanoviste que vous êtes, je le répète, publie avec Valentin, son fils, un dictionnaire amoureux de l'inutile chez Plon. Et ça, ça a été 3 ans de travail intensif pour vous deux.
Pas tout à fait intensif, c'était un peu un jeu chaque mois de s'envoyer 5 articles l'un et l'autre autour de l'idée de l'inutile. Donc c'est une idée suffisamment large et ouverte pour essayer de faire un dictionnaire qui serait une promenade à travers tout ce qui est absolument inutile et donc complètement indispensable.
Ça vous passionne, ce qui est inutile?
Ça m'intéresse.
Pourquoi?
C'était un peu aussi aller à la pêche de tous ces moments inutiles pendant lesquelles on n'est pas quelqu'un de rentable, d'utile, mais pendant lesquelles on peut vivre des moments forts de douceur et de moments de vie, quoi, tout simplement. Je pensais au ricochet quand on est au bord d'une rivière, quand on est avec son fils ou avec un copain et qu'on jette des ricochets. On ne peut pas raconter ça le soir en disant « mais j'ai fait une bonne journée, j'ai jeté des ricochets », mais on peut essayer de décrire ce moment-là pour dire le plaisir qu'on a eu à cet instant précis, ou simplement, c'est peut-être simplement le bonheur d'être en vie.
Voilà. Et le bonheur de travailler avec votre fils, il y a des images qui existent à 6 ans où il joue de la trompette, et là maintenant il veut être réalisateur, et ça a été votre complice dans ce livre.
Oui, je ne sais pas s'il veut toujours être réalisateur, en tout cas il travaille soit comme assistant dans le cinéma, soit il écrit, il se débrouille.
Enfin, quand il était enfant, on lui a certainement raconté des histoires, et vous prévoyez maintenant un conte de Noël qui va sortir également.
Oui, c'est vrai. Mais il est un peu trop grand maintenant pour écouter ce conte de Noël. Je pense à j'étais fan comme vous de Charles Trenet. Je me souviens que la première fois, quand il a eu l'âge d'aller voir un spectacle, je l'ai emmené voir Charles Trenet au Palais des Congrès. Et Charles Trenet est arrivé sur scène. Tout le monde l'a applaudi dès la première chanson. Et après la première chanson, Valentin m'a dit « c'est fini ». Mais je crois qu'il avait 5 ans. Et pour lui, ça aurait été peut-être un bel après-midi déjà. Alors que moi, je n'avais pas eu mon compte. Première chanson, c'était « Revoir Paris », qui était le début d'une collection de chansons formidable.
Eh ben merci, et puis merci, travaillez bien, continuez à apporter de la joie comme vous le faites, et à travailler aussi bien. Eh bien, les clés d'une vie, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt.